France Culture.
Gérard Noiriel, bonjour.
Bonjour.
À Voix Nue, épisode 4, le métier d'historien. Vaste programme qui va être le nôtre dans ce quatrième temps de nos À Voix Nue. Rapport au passé et au présent, est-ce que ça découle de la socio-histoire, cette façon de privilégier toujours des questions qui sont au cœur des bouleversements que la société française connaît actuellement? Objectivité du scientifique, du savant. Et puis, rapport entre les élites et le peuple, pour le dire comme ça, puisque ce sont des questions non seulement que vous avez appréhendées dans votre travail, mais aussi qu'on entend tout le temps, ces dernières années, en tous les cas, dans notre société. Peut-être pour commencer, pourrais-je citer un extrait de votre repère sur la socio-histoire, paru dans la Découverte, parce que je pense qu'il pose bien les problèmes. Et c'est vous que je cite. « Bien qu'il plaide pour une séparation stricte entre le savant et le politique, le socio-historien ne défend pas pour autant un repli des chercheurs dans leur tour d'ivoire. Les problèmes qu'il étudie sont souvent en rapport avec les enjeux du présent. À l'écoute des préoccupations de son temps, il s'efforce de les transformer en questions scientifiques pour produire des connaissances qu'il tentera ensuite de diffuser au-delà du petit cercle des spécialistes. Le rôle du socio-historien n'est pas de promouvoir telle ou telle cause, aussi juste soit-elle, parce qu'il n'a pas été mandaté, il n'a été mandaté par personne pour jouer les porte-parole. Certes, en tant que citoyen ordinaire, il peut intervenir dans les débats du moment, mais il n'a pas le droit d'utiliser la science pour justifier ses propres opinions. Il se contente de mettre en évidence les enjeux sous-jacents de façon à donner aux citoyens la possibilité de choisir en connaissance de cause. » On pourrait presque s'arrêter là, il y a tout. Mais j'aimerais bien que vous développiez tout.
Écoutez, j'ai écrit ça il y a combien d'années?
C'était en 2006.
Il y a près de 20 ans. Écoutez, souvent j'aime pas me relire, hein, parce que.
Mais là, c'est quand même.
Mais là, je pourrais pas dire mieux. Oui, effectivement, je suis resté sur cette ligne-là. L'histoire du passé-présent, il n'y a pas que les socio-historiens qui sont dans cette logique du passé-présent. Vous avez énormément d'historiens qu'on voit d'ailleurs souvent aujourd'hui à la télévision pour commenter l'actualité, etc., qui vont nous faire des références historiques. C'est pas. Mais c'est une dimension de notre rapport, une dimension qui pour moi est importante, qui concerne ce qu'on appelle la fonction civique de l'histoire. Donc ça, c'est ma filiation, et la notion de métier d'historien, effectivement, eh bien, moi, je l'emprunte à Marc Bloch. C'est l'historien qui a le plus compté pour moi, je dirais, on y reviendra sans doute tout à l'heure.
Ah bah oui, on peut même y revenir tout de suite, voilà. En fait, Marc
Mais
Bloch.
Je dirais, vous voyez comment ça s'articule en tant que socio-historien, c'est que Bourdieu a coécrit un bouquin qui s'appelle « Le métier de sociologue ». Donc, si vous voulez, la notion de métier, elle est, voilà, pour moi, extrêmement importante parce que, disons, les savants pour lesquels j'ai eu la plus grande admiration étaient dans cette logique-là. C'est une logique d'autonomie, mais aussi d'engagement, quelque part.
Engagement et distanciation.
Engagement, c'est Norbert Elias, le livre de Norbert Elias. Donc, c'est tout à fait ça. Mais je ne confonds pas les sphères, si vous voulez. C'est une des tendances, aujourd'hui, dans la nouvelle génération de sciences sociales. Vous avez des gens qui répètent tous les jours que tout est politique, et donc qui croient faire de la politique quand ils publient leurs petites pattes de mouche, j'allais dire, critiques, etc. Moi, je pense qu'il vaut mieux être prudent par rapport à ça. De quel droit, nous, qui ne sommes pas mandatés politiquement, qui n'avons pas de responsabilité politique, on va aller dire à tout le monde ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, etc. Ce qui n'empêche pas, effectivement, des formes d'intervention publique. C'est pour ça que j'ai été aussi séduit par ce que Bourdieu dit sur la différence entre le savant et l'intellectuel. Il y a les deux positions. À partir du moment où on peut intervenir sur des questions d'actualité sans mobiliser forcément ses travaux. Moi, la règle que je me suis donnée, quand je suis invité dans les médias, etc., c'est de n'intervenir que sur des questions que j'ai étudiées.
Mais quand vous faites, Gérard Noiriel, un livre contre Éric Zemmour, hein, Le venin dans la plume, en le comparant à Drummond, quand vous faites un livre sur les gilets jaunes, quand vous faites un tract chez Gallimard, collection très polémique, pamphlétaire sur l'identité nationale, et même des livres sur l'identité nationale, et on va y revenir, puisque ça a été un moment très important de votre engagement aussi civique. Est-ce que vous ne dépassez pas votre rôle d'historien, là? Enfin.
Non, parce que, si vous voulez, ces questions-là, je les aborde comme je l'explique dans cette citation, c'est-à-dire.
Ah oui, mais je suis là pour vous pousser un peu.
Oui, hein. Oui, je les retraduis dans un langage avec des outils qui viennent de nos disciplines. Mais ce n'est pas l'objectivité. Ce terme-là, je ne le reprends pas à mon compte. Je suis plutôt weberien, là aussi, où Weber dit que toute recherche s'appuie sur un point de vue. C'est un point de vue sur le monde qui nous engage à la fois notre histoire, notre personnalité, l'époque dans laquelle on vit, etc. Mais ça n'empêche, malgré ce point de vue, qu'on doit mettre en œuvre des outils qui, eux, viennent de notre formation et de notre science. Et ce qui va me différencier d'Éric Zemmour, c'est que lui se prétend historien sans avoir jamais mis les pieds dans les archives, sans absolument rien connaître du métier d'historien. Donc ce que j'ai fait dans ce livre-là, qui s'appelle « Le venin dans la plume », c'est une analyse, c'est-à-dire le sous-titre du livre, « La face sombre de la République ». Parce que ça, c'est une chose qui m'a frappé, si vous voulez. C'est le fait que la Troisième République, elle met en œuvre une avancée considérable du point de vue de la démocratie, hein, liberté de la presse, liberté de penser, liberté d'opinion, etc. Et puis en même temps, c'est à ce moment-là que naissent des courants horribles comme le racisme, l'antisémitisme, etc. Donc cet aspect contradictoire, nous devons l'étudier. Alors que si vous êtes dans une logique de polémiste, vous voyez qu'un côté, vous voyez pas l'autre, et vous alimentez, voilà, le parti auquel vous appartenez. Bon. Donc, la comparaison que j'ai faite, c'est pas non plus pour dire que l'islamophobie d'aujourd'hui, c'est la même chose que l'antisémitisme. Certains m'ont fait ce procès-là, c'est complètement absurde.
Ah oui, parce que moi, je qui ne suis pas une historienne, combien d'historiens et d'historiennes ai-je entendu dire « comparaison n'est pas raison » et « attention à l'usage du passé pour le présent
ben », voilà,
parce
qu'on
ne va pas confondre les époques, ça n'a aucun rapport,
voilà,
etc. Donc on vous fait ce procès-là.
Voilà, c'est toute la difficulté du passé-présent. C'est-à-dire le passé-présent, c'est à la fois montrer des choses qui peuvent être des tendances de longue durée, mais montrer aussi tout ce qui a changé. Donc dans ce livre, ce que j'analyse, c'est les procédés rhétoriques, c'est-à-dire l'art de convaincre. Comment on peut, quand on est polémiste dans une société démocratique, comment peut-on convaincre des gens de l'antisémitisme, de la xénophobie, de la haine des musulmans, etc., etc. C'est ces procédés que j'analyse, en montrant qu'il y a là des points communs, parce qu'on est dans une société qui repose toujours sur un nombre de principes qui n'ont pas changé depuis la Troisième République, et notamment le principe national, le nous français menacé. Il y a cette logique du déclin, le déclinisme, l'apocalypse, nous sommes au bord d'une apocalypse parce que nous sommes envahis. Vous savez, le grand remplacement, on le trouve déjà chez Drummond. Bien qu'en France, il y avait, je crois, 100 000 juifs à peu près, mais ils sont, pour Drummond, ah oui, ils sont pas nombreux, mais ils sont en haut. Ils nous remplacent. Ils remplacent les élites, ils remplacent les banquiers, ils remplacent, vous voyez, c'est cette logique du grand remplacement par en haut, et on le retrouve aujourd'hui plutôt par en bas, dans les banlieues, etc. Mais il y a donc des principes rhétoriques qui sont efficaces et qui arrivent à séduire une partie de nos concitoyens. Et c'est ça que je voulais montrer en disant réfléchissons aux aspects contradictoires d'une société démocratique comme la nôtre. C'est ça le fond du problème.
Il y a autre chose dans l'histoire comme science, hein, chez vous Gérard Noiriel, l'histoire science s'oppose aussi à l'histoire mémoire. Là encore, puisqu'on va y venir quand même,
oui,
vous êtes sous la tutelle de Marc Bloch et de son fameux livre Apologie pour l'histoire, oui, dans laquelle justement il distingue ces deux blocs, histoire mémoire, histoire science. J'aimerais bien que vous développiez ça, surtout que Marc Bloch entrera au Panthéon en juin 2026, on enregistre ses émissions, oui, début octobre 2025, donc c'est le moment.
Voilà.
Bloc.
Oui. Alors voilà. Et c'est un enjeu pour moi très important parce que même au sein de la communauté des historiennes et des historiens, on n'a pas forcément la même lecture de Marc Bloch. Moi, j'ai essayé de montrer, si vous voulez, que les deux ouvrages qu'il a écrits pendant la Résistance, Apologie pour l'histoire au métier d'historien et L'étrange défaite, en fait, ne sont pas de la même facture. Dans le premier, Apologie pour l'histoire, c'est le savant qui parle, et dans le deuxième, c'est l'intellectuel qui parle. Dans le deuxième, d'ailleurs, hein, dans L'étrange défaite, il se dit c'est le témoignage, il se situe comme témoin. Alors que dans Apologie pour l'histoire, il se situe comme savant qui défend sa discipline et son autonomie. Donc il y a une tendance à confondre les deux. L'autre problème qui s'est posé pour moi par rapport à Marc Bloch, c'est qu'à partir des années 70, vous avez eu toute une nouvelle génération influencée par Paul Venn ou autre, qui a eu tendance à considérer Marc Bloch, oui, un grand résistant, un grand historien médiéviste, mais un positiviste. C'était le rejet, justement, du Marc Bloch qui défendait l'autonomie de la science historique, voilà, qui disait aussi qu'il faut défendre la communauté des historiens, etc., etc. Donc ça a fait pas mal de tort, je dirais, à cet ouvrage, Apologie pour l'histoire, qui était aussi conçu comme un peu naïf, comme un peu simpliste, etc. Parce qu'on avait oublié que la première phrase, c'est de dire « je vais expliquer » à son fils, hein, il parle à son fils, « dis papa à quoi ça sert l'histoire ». C'est un livre où il essaie d'expliquer au grand public, aux citoyens, ce que c'est que sa discipline. Parce qu'il sait que quelque part, c'est toujours les citoyens qui ont le dernier mot. La science, elle n'est pas souveraine. Si dans une société, on ne finance plus des fonctionnaires dont le métier, c'est d'enseigner et de faire de la recherche, eh bien la science peut disparaître. On n'est pas chercheur de droit divin, comme je dis, vous voyez. On a des comptes à rendre par rapport aux citoyens qui, avec leurs impôts, font qu'on exerce ce métier. Et c'est ça que Marc Bloch avait compris. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier quand, voilà, on a bien travaillé à l'école, on a réussi les concours, donc on estime que tout nous est dû, on n'a plus de justification à donner sur son rôle, etc. Moi, ce que j'ai apprécié dans Marc Bloch, c'est justement cette lucidité dans un contexte particulièrement dramatique. Oui, dans la résistance, lui, il s'est engagé les armes à la main, mais aussi il s'était résisté intellectuellement pour défendre la science historique.
Et alors, dans ce livre qui est l'un de vos derniers, Gérard Noiriel, Le peuple français, histoire et polémique, les polémiques, on y reviendra en fin d'émission, vous parlez de votre métier, et justement, en vous plaçant sous les auspices de Marc Bloch, vous dites que, de la même façon que lui distinguait l'histoire-mémoire, l'histoire-science, j'y reviens, vous distinguez trois ensembles: les activités de savoir, les activités de pouvoir et les activités de mémoire. Alors, est-ce qu'on peut venir à cette distinction histoire-mémoire, histoire-science?
Oui, parce que, vous savez, Marc Bloch dit justement dans ce livre-là, il dénonce la manie du jugement. Alors à l'époque, c'était la Révolution française, le grand enjeu de mémoire. Il y avait ceux qui étaient pour Robespierre, pour Danton, pour ceci, pour celui-là. Et il dit à un moment donné, mais arrêtez de nous, voilà, de faire des procès rétrospectifs. Dites-nous simplement qui était Robespierre, qui était Danton, etc. Et cette logique-là, franchement, elle reste d'une actualité extraordinaire. Par les temps qui courent, vous avez les trois quarts des gens qui disent qu'ils font de l'histoire, c'est pour juger le passé, dénoncer la colonisation, réhabiliter celui-ci, celui-là, et ça crée des polémiques incessantes, qui très souvent sont anachroniques, qui très souvent ne rendent plus compte des contradictions de la réalité. C'est ce qui m'a amené, moi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais à coécrire ce livre avec Stéphane Beau, Race et sciences sociales, parce qu'il y a une tendance aujourd'hui de la mouvance, en tant que citoyen dont je suis la plus proche, la mouvance antiraciste, mais à utiliser l'histoire comme ça, à des fins dénonciatrices qui, du coup, à mon avis, ne servent pas la cause et, je dirais, sont, d'un point de vue historique, tout à fait indigentes, quoi.
Ah oui, à ce point. Parce que
enfin, pas pour tous, hein, je veux pas, faudra entrer dans le détail, mais dans les formes les plus popularisées, je dirais, oui, il y a des choses qui sont tout à fait critiquables.
Puisque vous le citez, parlons un instant de ce livre, Race et sciences sociales. De fait, ce livre écrit avec Stéphane Beau, sociologue, paru en 2021. Ce n'est pas le premier livre, Gérard Noiriel, que vous écrivez qui fait polémique, parce que sur la crise de l'histoire dans les années 90, ou même les origines républicaines de Vichy, paru en 99, on fait aussi polémique parmi vos confrères et consoeurs historiens, historiennes. Mais Race et sciences sociales a peut-être atteint un paroxysme. Race et sciences sociales, il mettait en évidence ce livre, l'apport des sciences sociales encore, sur les questions dites de la race et du racisme, qui se trouvent donc aujourd'hui au cœur du débat public. Et c'est un livre dans lequel tous les deux vous critiquiez les logiques identitaires qui se seraient notamment manifestées par une sorte de déplacement, en fait, de la question sociale vers la question raciale, de la lutte des classes vers la lutte des races. Et alors, ce livre a suscité des critiques ultra virulentes, évidemment amplifiées par les réseaux sociaux. Vous avez été accusés tous les deux de rejoindre le camp des réactionnaires, de nier la réalité du racisme dans la France d'aujourd'hui, de délégitimer les études intersectionnelles. Des historiens, des sociologues ont pris leur distance vis-à-vis de vous à ce moment-là. Vraiment, que s'est-il passé et comment réagissez-vous avec 4 ans de recul aujourd'hui?
Disons que j'ai eu l'impression de revivre ce que j'avais vécu quand j'ai été exclu du Parti communiste, voyez. Parce que ce travail critique, je l'avais fait par rapport aux classes sociales. Donc le procès qui m'a été fait d'opposer la classe à la race, c'est absurde. Enfin, je veux dire, si vous lisez sérieusement, je n'ai jamais été dans cette logique-là. La logique, ce que je montre, c'est par rapport à l'intersectionnalité, c'est l'aspect limité de cette approche-là, qui occulte souvent, effectivement, les ancrages sociaux des individus, même si dans le discours, on les met en avant. Mais autrement, pour moi, c'était, voilà, c'est par rapport aux logiques d'identification des personnes à partir d'un nombre limité de critères et surtout qui légitime des porte-paroles qui parlent au nom d'une cause. Donc, comme je vous dis, les relations de pouvoir, pour moi, elles existent aussi à l'intérieur des partis, des associations, des gens qui parlent au nom des autres. Il y a une relation de pouvoir. Et cette relation de pouvoir, elle est contradictoire. Elle est positive, c'est-à-dire elle permet de donner une vision publique à une cause, mais elle a aussi des aspects négatifs. Parce que quand les gens parlent à votre place, ils vont utiliser un élément au détriment d'autres éléments. C'est quand même fascinant de voir la répétition des schémas, alors même qu'aujourd'hui, c'est plus au niveau des partis, mais au niveau des associations militantes, y compris à l'intérieur de nos disciplines. Si vous voulez, moi, ce qui me désole le plus, qu'on me traite de ceci, cela. De toute façon, moi, je suis pas un adepte. J'ai pas été sur les réseaux sociaux à longueur de journée. C'est ce qui m'a le plus affecté, c'est effectivement que des collègues dont j'étais proche, mais avec lesquels j'avais des divergences par rapport à ces questions-là, comme Didier Fassin, etc., viennent dans une revue légitime, comme
on aussi,
etc., me considérer qu'on était des agents de la réaction, quoi, en gros, parce que ce procès-là, alors qu'il n'y a pas une seule analyse précise du travail, quand je parle notamment de comment peut-on, quand on est dans une société où la race sociale n'est pas catégorisée, puisque à la différence des États-Unis, en France, c'est pas dans les catégories, c'est pas dans les statistiques, etc., de quel droit nous, en tant qu'universitaires, nous allons étiqueter des individus à partir de leur couleur de peau. C'est la question que je pose par rapport à Pap Ndiaye de son livre, là. Mais c'est une question, personne n'a réagi là-dessus. Il n'y a pas eu de débat là-dessus. Vous comprenez? Donc, tout est dévié par rapport à des polémiques qui sont mémorielles, si on veut. Mémorielles et plutôt, oui, identitaires au sens des petites polémiques woke, anti-woke, machin, etc. Moi, je me tiens à distance de tout ça. Stéphane aussi, Stéphane Beau. Et du coup, notre travail, ben, les gens vont utiliser, vous voyez, ce qui sert leur cause dans les formes d'engagement où ils se situent, avec une idée que tout est politique. Donc, ils croient que leur petit texte, ça va avoir une importance politique. On voit le résultat.
Moi, j'ai quand même deux questions par rapport à plus ce livre et la démarche qui est la vôtre, quand je vous entends, Gérard Noiriel. C'est que, pour bien comprendre, j'ai quand même compris que vous avez toujours combattu les logiques identitaires. Bon, ça, c'est clair. Mais quand vous affirmez, par exemple, que, il y a longtemps, hein, dans les débuts des années 80, on en a parlé, que dans l'histoire des ouvriers, que le vrai prolétaire, c'est l'immigré, est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de faire de l'intersectionnalité avant tout le monde, par exemple? Et la deuxième question, c'est est-ce que les études que vous critiquez, notamment dans ce livre, les études de genre, les études postcoloniales, les études dites raciales, ne sont pas les non-lieux de mémoire des années 2010?
Alors, je ne sais pas, j'ai jamais dit que le vrai prolétaire, c'était l'immigré. Ce que j'ai dit, c'est que les gens qui étaient dans des situations d'immigration étaient les franges les plus exploitées du prolétariat. Voilà. Et que ça, on le retrouve à toutes les époques. Et que, politiquement, on voit que la gauche a réussi, disons, à devenir hégémonique quand elle a réussi à rassembler ces différentes composantes. Ce qui était le cas en 36. Le Front populaire, c'est un moment extrêmement important d'intégration des précédentes vagues d'immigration au sein de la classe ouvrière. Donc voilà, c'est ça que, pour être plus précis, que j'ai défendu comme idée. Par rapport à l'intersectionnalité, mais pour moi, c'est, vous voyez, d'une banalité déconcertante, puisque le propre de la sociologie, c'est de combiner les critères qui définissent l'identité des personnes, pour mesurer comment elles se combinent, elles s'articulent en fonction des contextes, en fonction des moments, en fonction des enjeux, en fonction des intérêts, etc. Donc c'est pour ça que l'intersectionnalité, c'est une vision réduite de ce que nous, moi j'ai appris pendant des années à mes étudiants, c'est-à-dire combiner les variables, combiner les critères, etc., respecter les personnes dans leur diversité. Et après...
Mais ce que je dis, vous en faisiez avant tout le monde.
Oui, oui, mais on n'appelait pas ça comme ça. Voilà, oui, oui.
Mais donc, voilà, ça arrive avec un mot.
Voilà. Alors après, qu'il y ait des dimensions qui étaient sous-estimées, Mais c'est normal. Ça, chaque génération apporte quelque chose. Donc moi, je suis tout à fait... Les études de genre, elles ont été développées. Par exemple, la question du climat, aujourd'hui, c'est vrai que notre génération, elle était... Voilà, on vit aussi dans une époque avec, justement, le contexte global, et on est marqué par ça, etc. Donc, c'est pas ça, le problème, si vous voulez. Il y a des raisons qui sont d'ordre épistémologique. Que deviennent les sciences sociales quand on confond les jugements de valeur, quand on devient un professeur ou une professeure de morale par rapport à la science? Est-ce qu'il faut défendre l'autonomie de la science ou pas? Je veux dire, ceux qui disent que tout est politique, faut pas qu'ils s'étonnent aussi que de l'autre côté, on ait les réactionnaires qui remettent en cause constamment toutes les formes d'autonomie, que ce soit celle de la science, de la justice, etc. On doit défendre l'autonomie. La démocratie, c'est la défense de l'autonomie des différentes sphères. Elles sont attaquées aujourd'hui principalement par l'extrême droite, par ceux qui veulent remettre en cause les acquis de génération d'avant nous, et nous, notre rôle, eh bien, c'est justement de faire un front commun pour défendre cette autonomie. Ça passe donc par l'autonomie de la science, arrêter de jouer les professeurs de morale, arrêter de se croire comme ça porte-parole de toutes les causes, pour comprendre les réalités. Parce que c'est comme ça qu'on peut aussi aider les militants. C'est en expliquant les réalités. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je ne fais pas de leçons aux militants. Nous, notre travail, c'est de montrer la complexité des relations, les contradictions qui existent dans les mouvements sociaux, y compris de ceux dont on est proche, pour les aider à progresser. Vous voyez, c'est dans cette perspective-là que je me situe. Je ne dis pas que je la mets en œuvre parfaitement, mais c'est dans cet idéal-là que je me situe.
Y a une chose que vous avez beaucoup, souvent critiquée, y compris à ce micro, Gérard Noiriel, c'est les experts ou les intellectuels qu'on appelle dans notre jargon les toutologues, c'est-à-dire ceux qui sont capables de parler de tout sur les plateaux télé en particulier. Et en même temps, vous ne voulez pas alimenter l'anti-intellectualisme du moment. C'est à la fois votre livre « Les fils maudits de la République », paru en 2005, sur le rôle de l'intellectuel, où vous faites beaucoup référence à Foucault encore, et « Le peuple français », paru en 2025 chez Talendier, où justement vous faites attention à ce mépris de classe, pour reprendre la distinction élite-peuple, ce mépris de classe que vous voyez poindre aussi bien dans l'histoire qu'aujourd'hui, puisque passé-présent.
Effectivement, la question du mépris de classe, c'est une formule qui a eu tendance à se diffuser, elle est réelle, elle est contradictoire, elle est difficile à expliquer parce que, effectivement, on entend beaucoup aujourd'hui de gens, parmi quand même au sein des classes populaires, beaucoup votent pour le Rassemblement National, votent à l'extrême droite et souvent ils disent on en a marre des leçons de morale que les intellos viennent nous faire sans arrêt, etc. Il faut aussi réfléchir à ça. C'est pour ça que je cite Richard Rorty. Quand j'étais à Princeton, j'ai découvert Richard Rorty, qui est peu connu en France malheureusement. C'est un des plus grands philosophes, il est mort maintenant, mais pragmatiste, hein, comme on dit, dans le courant pragmatiste. Et Richard Rorty, donc, autour des années 2000, un peu avant même, il mettait déjà en garde ses collègues américains, lui, homme de gauche, en disant « Attention, si nous, intellectuels, universitaires, on passe notre temps à discréditer le peuple en disant, voilà, de leur reprochant, leur préjugés, etc., on risque de faciliter l'accession au pouvoir des populistes, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et on a Trump aujourd'hui qui s'appuie sur ce ressentiment qui existe dans les classes populaires d'être maltraités ou d'être toujours comme ça considérés comme des gens qui pensent mal. Donc je veux dire, moi voilà, je me dis, ça encore, ça nous amène à une certaine modestie, à retisser des liens. On en parlera peut-être, que j'ai créé une association d'éducation populaire.
Ça sera le sujet du dernier épisode.
Pour retisser des liens. Et donc, on est là, effectivement, confronté à des enjeux. C'est ce qui m'a amené aussi à distinguer le savant et l'expert. Quelle est la différence pour moi? Le savant, c'est quelqu'un qui maîtrise son questionnement. C'est pour ça que c'est Marc Bloch, je cite encore Marc Bloch, l'histoire-problème. Marc Bloch, c'est l'histoire-problème. Il faut un problème. Le savant, il va résoudre un problème. Mais ce problème, c'est un problème scientifique. C'est pas un problème politique. Et moi, depuis que je travaille sur l'immigration, je peux vous dire qu'il se passe pas de semaine sans qu'un journaliste me contacte en me disant « le problème de l'immigration, mais pour lui, pour elle, c'est la dernière phrase de Sarkozy, c'est machin, c'est Retailleau. C'est... » Mais moi, que je dise là-dessus, c'est pas ça un problème scientifique. Donc il y a l'autonomie de la construction du problème scientifique. Mais c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, avec l'évolution des médias, d'intervenir publiquement en disant voilà, « voilà que mon problème, c'est pas celui la question que vous me posez. » Alors que les experts, c'est ceux qu'on voit tous les jours, bien eux, ils répondent aux questions qui sont posées directement par les politiques. Ils acceptent, ils mettent leurs compétences au service de problèmes qu'ils n'ont pas eux-mêmes construits. Et c'est là que, pour moi, il y a une différence majeure. On a besoin d'experts, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais il faut aussi des savants.
Vous parliez de la fonction civique de l'histoire. Là, vous parlez des interventions publiques, Gérard Noiriel, et vous en avez vous-même eu un certain nombre, peut-être même des engagements, qui sont des engagements dans la société, en intervenant plusieurs fois dans les années 90 et 2000, que ce soit comme membre d'instances citoyennes, il y en a eu beaucoup, hein, ou à travers les livres. Dans ces cas-là, vous intervenez comment? Comme savant, comme politique, comme citoyen, comme intellectuel, comme historien, les trois à la fois? On va bien sûr évoquer votre rôle en particulier en 2005 au sein du comité de vigilance des usages de l'histoire, le fameux CVUH avec Michel Rieu-Sarcey et Nicolas Offenstadt, puisque là vous réagissiez en tant qu'historien à la loi du 23 février 2005 qui demandait aux enseignants d'évoquer dans leurs cours le rôle positif de la présence française outre-mer. Et là vous avez vraiment tous les trois constitué ce comité pour dire, attention, nous, historiens, nous mettons en place ce comité de vigilance parce qu'on ne veut pas la récupération politique de l'histoire. Donc, vous intervenez comment dans ces cas-là, par exemple?
Ben, par rapport au CVUH, là, je dirais que j'intervenais en tant qu'historien. En tant que, c'est un peu comme Marc Bloch avec le métier d'historien, évidemment dans un contexte beaucoup moins dramatique, mais enfin qui visait quand même à défendre l'autonomie de notre discipline par rapport à ces usages politiques qui étaient faits à l'époque, vous avez cité, par rapport à cette loi sur la colonisation. Mais je dirais que dans d'autres aspects, je suis intervenu aussi comme intellectuel. Par exemple, j'ai présidé pendant plus de 10 ans le comité de défense d'aide aux intellectuels réfugiés. Donc j'ai assumé aussi, et là en tant qu'intellectuel, c'était pas ma compétence d'historien qui me légitimait pour être président de ce comité, c'était plutôt une solidarité avec des intellectuels, des chercheurs qui avaient été obligés de fuir leur pays, qui étaient accueillis en France et qu'on essayait d'aider. Alors, j'ai pas à chaque fois il faudrait le faire peut-être, mais je peux pas à chaque fois dire là j'interviens comme savant, là j'interviens comme militant, là comme intellectuel. Mais je tiens quand même à la distinction des rôles, parce que autrement, eh bien, on arrive à cette espèce de prétention des intellectuels qui parlent de tout pour énoncer leurs propres opinions, et ça, je crois que c'est contraire au principe de base de la démocratie.
Oui, vous voyez, c'est effectivement un équilibre difficile à trouver entre cette volonté d'articuler la recherche historique et les interventions citoyennes. C'est toujours une troisième voie qui est un peu sur une ligne de crête, hein, entre le chercheur dans sa tour d'ivoire et l'historien engagé. Et vous n'aimez pas tellement ce côté historien engagé, donc c'est toujours garder une juste distance tout en intervenant dans l'espace public. Et ça, vous l'avez fait, Gérard Noiriel, de façon très active au sein de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qui est devenue au Palais de la Porte Dorée à Paris le musée de l'histoire de l'immigration. Vous avez participé activement à ce développement dès ses origines. Oui. Et vous avez démissionné en mai 2007 avec 7 autres collègues pour protester contre la création par Nicolas Sarkozy, devenu président de la République, d'un ministère qui associait la question de l'immigration à celle de l'identité nationale. Ça a donné un livre, À quoi sert l'identité nationale, en 2007. Alors là, il y avait vraiment aussi plusieurs positions qui étaient les vôtres.
Oui, c'est ça. Ça a été un enjeu important, puisque sous l'égide de Jacques Toubon, on avait vraiment travaillé pendant plusieurs années pour la mise en place de ce qu'on appelait une cité. Hein, c'était important, le mot cité, parce que c'était une dimension aussi collective, avec toutes les associations qui existaient, qui étaient déjà nombreuses, sur les différentes communautés immigrées. Voilà. Et on a commencé à faire un travail intéressant qui associait donc des historiennes, des historiens, des enseignants de différents niveaux, du secondaire, etc., des travailleurs sociaux, des artistes, etc., pour créer des projets collectifs qui permettaient justement de transmettre à un public large les acquis de la connaissance. Voilà. Donc cet engagement-là, il était très important. Et le conseil scientifique, le premier conseil scientifique qu'on a mis en place, il était uni, très uni, autour de ces idées-là. Et puis, brutalement, effectivement, en 2007, on a vu, à la suite des élections présidentielles, Nicolas Sarkozy récupérer un peu ce machin-là pour l'intégrer dans un ministère de l'identité nationale, alors même que nous savions par nos travaux que cette logique, c'est la politisation de l'identité nationale, avait toujours servi les forces hostiles à l'immigration. Donc on a décidé qu'on ne pouvait plus continuer à cautionner ça, et donc on a démissionné collectivement de cette instance-là.
Merci Gérard Noiriel. La transition est toute faite vers la dernière émission qui portera sur la transmission, le lien social tel que vous l'entendez, l'éducation populaire et les associations que vous avez montées. Donc on se retrouve demain. L'épisode 5 s'intitule « Une histoire incarnée ».
Eh bien, à demain.
Merci et à demain. C'était À Voix Nue avec Gérard Noiriel, réalisation Assia Weber, prise de son Frédéric Héroux et Maëlle Larfassor, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.